Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Donc, nous allons continuer notre étude de l'épître de Jacques. Donc, c'est une épître très pratique. Et aujourd'hui, on va être pratique de pratique. Donc, encore plus que d'habitude. Même si je vais soulever certains points plus fondamentaux. Et on va d'abord demander au Seigneur de bénir sa parole. Seigneur, comme tu l'imprimes toujours plus dans ma pensée, ton esprit n'accompagne que ta parole. Il n'accompagne pas notre théologie, il n'accompagne pas nos dogmes, il n'accompagne même pas nos confessions de foi, aussi belles soient-elles. Mais c'est d'abord ta parole qui est l'épée de l'esprit. Donc, fais-nous grâce ce matin pour que ce soit la parole, cette parole-là qui soit prononcée, cette parole-là qui soit entendue. Au nom de Jésus, amen.
Amen.
Donc on va poursuivre la lecture de l'épître de Jacques avec le chapitre 2, les versets 1 à 13. Donc pour ceux qui veulent ouvrir leur Bible, chapitre 2, versets 1 à 13, et les autres, vous écoutez. Je rappelle toujours Apocalypse, verset 1, chapitre 1, verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent. » Voilà. À une époque, tout le monde n'avait pas la Bible pour la lire, mais quelqu'un la lisait et les autres écoutaient. Donc l'important, c'est l'écoute. Dans chapitre 2, versets 1 à 13, toujours à partir de la Peshitta syriaque, donc la Bible des chrétiens d'Orient. Mes frères, alors là, il y a une expression particulière en syriaque, qui s'appelle les preneurs de visage. Alors un preneur de visage, c'est en fait un hypocrite. C'est celui qui essaye d'avoir une bonne face devant les autres. Donc, littéralement, c'est « ne tenez pas avec prise de visage », ce qui fait un peu bizarre. Donc, mes frères, ne jugez pas avec partialité. Ou comme on dirait dans un langage moderne, ne faites pas de délit de faciès. Parce que faciès, face, voilà, ça fait penser effectivement à cette chose-là. Donc, pour ce qui est de la foi glorieuse de notre Maître Jésus le Messie. Donc on va voir de suite comment on fait dans ce genre de péché. Si il entre dans votre assemblée, en fait c'est dans votre synagogue. Je vous rappelle que l'épître de Jacques est écrite aux 12 tribus. Et donc ceux à qui Jacques s'adresse, ce sont ce que l'on appellerait en langage moderne les juifs messianiques. C'est-à-dire ceux d'entre les juifs qui ont reconnu Jésus pour leur messie. Et donc là c'est étonnant de voir effectivement ce mot synagogue. Eh bien le mot synagogue, hein, c'est celui qui est employé... Donc en araméen, Knushta, c'est la synagogue. S'il entre dans votre synagogue quelqu'un ayant sur lui un anneau d'or ou vêtu d'un vêtement magnifique, resplendissant, mais qu'entre aussi un pauvre vêtu d'un vêtement misérable, et vous observez avec faveur celui qui est vêtu de ce beau vêtement, et vous lui dites « Tiens, assieds-toi ici, dans cette place d'honneur. » Mais au pauvre, vous dites « Toi, tiens-toi là-bas au fond. Ou alors, assieds-toi ici, mais devant mon marchepied, à mes pieds. » Position d'humiliation. « Voici, dit Jacques, n'est-ce pas que vous êtes divisés en vous-même et que vous êtes devenus des juges ?» Intéressant, littéralement des séparateurs. C'est la même racine que le mot pharisien. On pourrait presque dire « vous êtes devenus comme des pharisiens, avec des raisonnements mauvais. » Et vous êtes divisé en vous-même, parce que vous confessez la foi en Jésus, mais vous êtes hypocrite à l'égard des frères. Écoutez, mes frères bien-aimés, n'est-ce pas les pauvres du monde qui sont riches en la foi, que Dieu a choisi afin qu'ils soient héritiers de ce royaume que Dieu a promis à ceux qu'il aime? Or, vous avez méprisé le pauvre. Voici. N'est-ce pas les riches qui s'élèvent contre vous et vous traînent dans la maison du tribunal? Voici, ne sont-ce pas eux qui blasphèment le beau nom, c'est-à-dire Jésus, qui est appelé ou invoqué sur vous? Et là, ça pose la question d'emblée, mais les riches qui sont accueillis à la synagogue, de quels riches parle-t-on? Puisque là, il est dit que ce sont ceux qui n'hésitent pas à traîner les autres devant le tribunal et à blasphémer le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont à faire au milieu des croyants? On va se poser la question. Oui, ça sonne pas tout à fait comme dans la Bible seconde ou autre, hein. Et si vous accomplissez la loi de Dieu en ceci, selon ce qui est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. vous faites bien, vous œuvrez littéralement magnifiquement. Mais si vous prenez des visages, si vous faites acception de personnes, c'est comme ça l'expression française correcte, si vous faites acception de personnes, donc on dirait si vous faites du délit de faciès, vous commettez un péché et vous êtes convaincu par la loi d'être des transgresseurs de la loi. Car celui qui garde toute la loi et en un seul commandement faillit est coupable de toute la loi. Car celui, avec un C majuscule Dieu, qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère », celui-là a aussi dit « Tu ne tueras pas ». Donc, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu tues, tu es transgresseur de la loi. Ainsi, parlez et agissez comme des hommes et des femmes qui allaient être jugés par la loi de la liberté. Car la loi n'a pas de compassion envers celui qui n'a pas œuvré ou mis en œuvre la compassion. Élevez-vous par la compassion au-dessus du jugement. Une autre manière de dire, par l'amour, accomplissez la loi. La lettre de la loi n'a pas de compassion. Donc vous voyez, le texte de ce matin, il remet en question nos rapports les uns avec les autres. C'est ça qui est intéressant et c'est ce que je vais développer. Donc, Jacques a, comme je l'ai dit, une approche pragmatique de la parole et elle vient du fait qu'il est à la frontière entre le monde juif dont une partie a reçu le message de l'évangile et a reconnu le messianisme de Jésus et de l'autre côté le monde grec qui reçoit également l'évangile et qui s'agrège au noyau juif qui a reçu l'évangile. Hein, quand on voit dans le livre des Actes, c'est toujours comme ça que Paul procédait. D'abord la synagogue, ensuite il séparait les juifs qui avaient cru et ensuite il agrégeait autour d'eux les grecs qui avaient cru. Donc Jacques, il est vraiment du côté de ce qui se passe côté juif. Et il dénonce dans le passage que l'on vient de lire, l'incompatibilité qu'il y a entre une profession de foi en notre maître Jésus, relation verticale, le Jésus divin, puisque là il est dit, il est question d'une foi glorieuse, littéralement la foi de la gloire. Donc ça veut dire une foi glorieuse. Et dès qu'on parle de gloire, automatiquement on renvoie à la nature divine de Jésus. Parce que ce qui fait la gloire de Jésus, c'est sa nature divine. C'est ça que l'on contemple et qui nous captive. C'est sa divinité manifestée par sa gloire, son éclat. Donc, Jacques dénonce l'incompatibilité entre professer verticalement une foi en Jésus, le Jésus divin, puisque ceux qui étaient là dans la synagogue confessaient a priori que Jésus était bien le Messie des Écritures, mais incompatibilité avec nos jugements intérieurs, les uns sur les autres. Nos a priori, nos discriminations. Et donc je vais développer ça ce matin. Et donc Jacques ramène à la question de nos rapports les uns avec les autres et l'accomplissement de la loi d'amour. Donc Jacques ne dit pas autre chose que ce que dit Paul. C'est l'amour qui va accomplir la loi et pas l'observation de tel ou tel commandement en laissant de côté tel autre et tel autre. Et quel est le public auquel Jacques s'adresse? On l'avait vu donc dans Jacques 1, verset 1, il s'adressait aux 12 tribus semées parmi les nations. Et là maintenant on a confirmation que c'est bien au monde juif que Jacques s'adresse, puisqu'il parle maintenant là de synagogue. C'est bien à nouveau le terme employé. Alors évidemment ça nous concerne nous aussi, parce que les questions des jugements les uns sur les autres, les a priori et les préjugés, ça nous concerne tous. Donc allons-y. D'abord donc, mes frères, ne faites pas acception de personne, ne jugez pas avec partialité. Donc la foi glorieuse en notre maître Jésus le Messie. Cette notion d'acception de personne, c'est étonnant de voir qu'elle est très 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 présente dans la première alliance. Déjà dès le Deutéronome au chapitre 1, vous ne ferez pas de différence entre les personnes lorsque vous jugerez. Là, il était question donc des juges établis en Israël. Vous ne ferez pas de différence entre les personnes. Deutéronome 1, Lévitique 19. L'Éternel, votre Dieu, ne fait point d'acception des personnes et ne reçoit pas de présents. Dieu est impartial. Il juge au cœur et non pas à l'apparence. Deutéronome 10. Et c'est une idée qui est reprise. Alors, Actes 10, Romains 2, Galates 2, Éphésiens 2, Colossiens 3, 1 Pierre 1. Dieu ne fait point d'acception des personnes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très prégnant, y compris dans la Nouvelle Alliance. Et Jésus lui-même, dans Jean 7, dira « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Voilà, on est piégé par nos yeux et nos a priori, et on juge par l'apparence. Alors que le visage dans la Bible, c'est l'image de l'intériorité. Hein, la face que l'on montre aux gens est en fait un reflet de la vie intérieure. Donc, faire une acception de personne, de visage, ce n'est pas neutre. Ça traduit quelque chose de mauvais dans notre cœur. Ça représente une relation qui est corrompue à l'image. Ça veut dire l'image de Dieu qui est en chacun de nous. On juge ce que l'on voit selon l'apparence au lieu de voir comme Dieu voit. Et qu'est-ce que Dieu regarde, lui? Il regarde le cœur, 1 Samuel 16. Autrement dit, cette manie de nous juger les uns les autres selon l'apparence, en fait, c'est une forme d'idolâtrie. Parce qu'on va juger l'apparence selon quoi? Les beaux vêtements? Selon le prestige? La position sociale de la personne dans la société? On va juger selon la réputation de la personne? On va la juger selon son physique? On va la juger tout un tas de critères que l'on peut mettre pour nous juger les uns les autres. Vous savez, souvent, comme on dit, la première impression compte. Mais ça, c'est le monde. Hein, le monde, premier entretien d'embauche pour donner une bonne impression, pour assurer. Voilà, mais ça, ce ne sont pas des critères dans l'Église. Ce sont des critères du monde. La foi véritable ne regarde qu'à un seul visage. Lequel? Quel est le seul visage que nous devons regarder? C'est Jésus. La lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face ou sur le visage de Jésus, 2 Corinthiens 4. Par conséquent, nous juger les uns les autres sur la question de l'apparence, et à nouveau je vais détailler tout ça après, parce que c'est l'objet du passage de Jacques. C'est en fait une triple trahison. C'est une trahison en relation avec la nature même de Dieu, puisque Dieu ne fait pas exception de personne. C'est une trahison de l'Évangile, puisque Jésus dit qu'il est venu pour les pauvres, toutes sortes de pauvres. Et enfin, c'est une trahison de notre foi, qui devrait être simple et non pas double. Souvenez-vous, dans le premier chapitre de l'épître de Jacques, Jacques dénonçait déjà ceux qui ont un cœur double. Mais là, il donne un exemple très concret de comment se traduit la duplicité de notre cœur. Alors, ça ne veut pas dire qu'on accueille tout le monde sans distinction et sans discernement. Il faut toujours équilibrer la parole. Évidemment que nous devons juger, ou plutôt discerner les esprits. Mais les esprits ne se manifestent pas forcément par les apparences. On peut avoir quelqu'un de très très belle apparence et possédé par un diable. Le diable, c'est l'ange de lumière, il vient avec une très belle apparence. Un être lumineux. Les apparences sont parfois trompeuses. Donc non, bien sûr que nous devons discerner les esprits. Bien sûr que Jésus connaissait les desseins intérieurs des cœurs de ceux qui se présentaient à lui, en particulier des hypocrites qui venaient à lui avec des belles paroles flatteuses. « Ah, oh, nous savons que tu parles avec intégrité !» en essayant de flatter Jésus. Et puis après, « La pièce de monnaie là, à qui nous devons payer des impôts ?» Et immédiatement après la flatterie, les religieux essayaient de coincer Jésus. Belle parole, belle apparence, et derrière le piège. Non, Jésus connaissait les desseins intérieurs des cœurs, et nous devons également discerner les desseins intérieurs. Ça s'appelle le discernement. Jésus également savait à quel public s'adresser. Hein, suivant que c'était la grande foule, suivant que c'était des disciples, suivant qu'il avait des pharisiens en face de lui, des religieux en face, il adaptait son discours aux personnes. Et enfin, c'est ce que Paul dit à Timothée, à propos de ceux qui avaient l'apparence de la piété, mais qui en reniaient ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est quoi la piété? Souvent on emploie des mots comme ça. C'est quoi la piété? C'est quoi la piété? Parce que sinon je lis un verset, mais on ne comprend pas ce que Paul est en train de dire. Donc c'est quoi la piété? C'est quelque chose de très précis. Voilà. Alors c'est quoi la piété?
C'est une blague, hein, c'est une...
Oui, je précise, c'est une blague. Alors, ça fait partie de la piété. La prière. La piété, ce sont tous les actes pratiques que l'on met en place et qui sont l'expression de notre foi. Lire la Bible est un acte de piété. La prière est un acte de piété. Le chant est un acte de piété. Donc c'est une crainte de Dieu qui se manifeste par la pratique de la foi. Donc la piété a une dimension très pratique. C'est pour ça qu'on peut avoir l'apparence de la piété, faire de belles prières, chanter, lire la Bible, mais renier ce qui en fait la force. Et c'est quoi cette force que l'on renie? De quoi Paul est en train de parler? On peut avoir une belle apparence de piété. Souvenez-vous des pharisiens qui se tenaient au coin des rues et faisaient de belles prières à la vue des gens. Ils avaient une apparence de piété. Mais ils en reniaient ce qui fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? Oui, l'amour, Jésus, la foi en Jésus, la vie de l'esprit. Voilà, tout ce qui est à l'intérieur et qui en fait va s'exprimer à l'extérieur par les actes de piété. Mais on peut imiter les actes de piété sans avoir du tout Jésus dans notre cœur, sans avoir l'Esprit de Dieu en nous. Hein? Donc, certains ont l'apparence de la piété, mais renient la vie de l'Esprit et n'ont pas cette vie de l'Esprit. Et là, Paul est assez sévère puisqu'il dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc voilà, nous devons discerner. Hein? Donc, on doit bien établir une différence, mais pas une différence sur l'apparence. Il faut discerner ce qui se passe dans les cœurs. C'est là que ça se joue. Donc voilà, ne soyons pas naïfs. Hein. Ensuite, donc, Jacques donne un exemple. S'il entre dans votre assemblée, donc, vous vous souvenez du texte, quelqu'un avec un bel anneau d'or, ou alors un beau vêtement, et également un pauvre vêtu d'un vêtement misérable, et avec l'un, on va lui dire, prends la place d'honneur, et avec l'autre, on va lui dire, mets-toi au fond, ou alors, assieds-toi quelque part à mes pieds. Et là, ce qui est intéressant, c'est à développer, je pense, c'est la dialectique entre la richesse et la pauvreté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous connaissez la grâce de notre maître Jésus le Messie qui, étant riche, s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, vous deveniez riche. Quelle était la richesse de Jésus avant qu'il ne s'incarne, avant qu'il ne devienne homme? Qu'est-ce qui faisait sa richesse? Est-ce que c'était son compte en banque? Est-ce que c'était des lingots d'or cachés quelque part? Qu'est-ce qui faisait la richesse de Jésus avant son incarnation, avant qu'il ne descende des cieux? C'est quoi sa richesse? Le Fils, qu'il soit Fils. Sa gloire, comme on l'a dit, c'est-à-dire sa nature. Et tous les anges du ciel voient le Fils et sont fascinés, captivés par la beauté du Fils. La relation avec le Père, donc le fait qu'il soit fils, c'est ça qui fait sa richesse, qui fait sa gloire, qui fait sa, c'est cette relation privilégiée avec le Père. Et il a quitté tout cela pour prendre l'apparence d'un pauvre, c'est-à-dire d'un humain, sans compte en banque, qui vivait, souvenez-vous, dans son ministère, il vivait uniquement du don qui était fait pour soutenir son ministère. Il n'avait pas de lieu précis où pouvoir se reposer, comme il le dit lui-même. Voilà, il a abandonné tout ça, afin que par sa pauvreté et son ministère, rempli évidemment de l'Esprit de Dieu, il puisse enrichir d'autres par la parole. Dans certaines églises, on cultive l'apparence de la richesse matérielle. Par exemple, on est obsédé par le nombre de membres dans l'Église, comme étant un signe de la bénédiction de Dieu. Alors à ce compte-là, certaines églises qui ont des millions de membres devraient être parmi les plus bénies. Non, c'est pas ce que je vois. Ça peut aller beaucoup plus loin. Alors là, je vais soulever une controverse. C'est la question de la dîme. Certaines églises imposent la dîme aux membres. La dîme, ça veut dire verser 10% de son salaire. Donc, s'il y a 10 personnes dans l'assemblée, c'est l'équivalent d'un salaire. S'il y a 100 personnes dans l'assemblée, c'est l'équivalent de 10 salaires. S'il y a 1000 personnes dans l'assemblée, c'est l'équivalent de 100 salaires. Et on commence à se demander quelle est la motivation, en fait, d'une telle église ou de tel responsable à exiger la dîme, hein, si ce n'est pour avoir beaucoup d'argent. Et c'est comme ça que dans certaines églises, vous avez des pasteurs qui débarque avec des costumes de plusieurs milliers d'euros, bagues d'or, lunettes en or, la grande Mercedes ou deux ou trois à l'extérieur, immense baraque. C'est vrai ce que je dis. Hein. Il y a des pasteurs qui sont comme ça dans certains pays. C'est voilà. Et là par là, on affiche que nous sommes bénis de Dieu. sans réaliser, non, en fait, c'est complètement hypocrite, parce qu'on pressurise l'Assemblée pour recevoir l'argent et démontrer ensuite un grand train de vie et présenter ça comme étant la bénédiction de Dieu.
Waouh.
Voilà, on peut dire que là, ce sont des gens qui sont extrêmement pauvres en esprit, à se demander même si l'Esprit de Dieu est là. Donc, voilà, cultive l'apparence de la richesse. C'est intéressant parce que là encore, la parole renverse tout. Vous savez que Laodicée, Apocalypse, chapitre 3, dit « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Et qu'est-ce que lui répond Jésus ? Non. Non, ça c'est Éphèse. Il lui dit, tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Donc des fois on peut avoir de belles opinions de nous-mêmes et ne pas savoir en fait ce que nous sommes vraiment. Jésus dit à celui, à cette église qui dit je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Mais inversement, l'église de Smyrne, Apocalypse chapitre 2, Jésus lui dit, je sais que tu es pauvre. C'était une petite église, une église persécutée en plus. Elle était pauvre matériellement. Et pourtant tu es riche. Et Smyrne était riche de quoi? Elle était riche de la présence de Jésus au milieu d'elle. Le Jésus qui a aussi été persécuté et qui compatit avec ceux qui étaient persécutés à Smyrne. Donc voilà, ouais, l'apparence peut être complètement trompeuse. Hein? Laodicée avait une belle église, bien riche, bien, etc. Et Jésus lui dit, mais tu es pauvre, tu es misérable, tu es nu. Et à Smyrne, qui se voyait toute petite en train de tenir face aux persécutions, Jésus lui dit, mais tu es riche d'esprit. Tu es riche. Tu ne le sais pas, mais tu es riche d'esprit. C'est ce qu'il va dire également dans les Béatitudes, hein? Souvenez-vous. Matthieu 5, heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Alors, deuxième propos un peu piquant. Il y a bien des milieux où on affiche notre richesse spirituelle. On étale nos dons spirituels. On étale, voilà, toutes ces choses que l'on veut invoquer en signes, prodiges et miracles. Je trouve qu'il y a un côté débauché là-dedans. Vous voyez ? Quand on est riche dans l'esprit, en fait, on ne le sait pas. Et Dieu nous garde ainsi, on ne le sait pas. L'esprit agit, mais on n'en fait pas un show. Et c'est ce que l'on voit à nouveau dans, je l'ai déjà dit et je le répète souvent, dans 1 Corinthiens 12, 13, 14, l'esprit agit comme il veut. Et c'est en donnant la parole à l'assemblée que l'esprit va pouvoir parler par l'un, par l'autre. C'est ainsi que les dons spirituels vont se manifester à la volonté de l'Esprit, lui seul connaît le besoin de chacun des cœurs. Et c'est lui qui va utiliser l'un pour parler à l'autre, sans que l'on sache forcément qu'on a été instrumentalisé pour ça. Mais c'est comme ça. Et la voie royale pour que l'Esprit se manifeste dans une assemblée, c'est quoi, dit Paul? Elle est la seule chose que nous devons cultiver pour que l'Esprit de Dieu puisse lever ses dons et lever ses ministères. Comment? Non. Paul le dit, 1 Corinthiens 13, c'est l'amour pour les uns pour les autres. C'est le seul signe auquel on reconnaît que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est l'amour, la pratique de l'amour les uns pour les autres qui permet à l'Esprit de se manifester dans une assemblée. Vous voyez? Donc s'il n'y a pas d'amour les uns pour les autres, l'Esprit ne se manifeste pas. Les dons ne se manifestent pas. Les ministères ne se lèvent pas. Parce que les ministères, pareil, se lèvent dans l'église quand la parole est donnée à l'assemblée et ensuite on finit par discerner, tiens, un tel il a une parole de sagesse. La prochaine fois, je ferai plus attention. Un tel autre a tel don, tel appel, etc. C'est l'église qui discerne et qui ensuite va reconnaître tel ou tel ministère et qui va permettre l'expression de tel ou tel don. Donc les ministères ne viennent pas d'en haut. Les ministères se lèvent d'en bas. Ils émergent de l'église. Et l'Église le discerne. Donc voilà, on peut faire affichage de dons spirituels, affichage, voilà, on en fait un show, mais je crains que ça soit à rebours complet de ce que nous dit Paul dans 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Il dit non, c'est la voie de l'amour et l'Esprit est souverain pour faire dans l'Assemblée du coup ce qu'il veut. Je dis toujours qu'un don spirituel que je peux provoquer, par définition, ne peut pas être de l'Esprit. Parce qu'on ne peut pas contrôler l'Esprit, on ne peut pas lui dire ce qu'il a à faire. Alors on peut s'enorgueillir de ne pas prier l'Esprit, mais en fait, de manière détournée, en fait, on le contrôle quand même, en contrôlant l'expression des dons spirituels. Et ça, en fait, ça revient même. Donc faisons attention à ça. Il vaut mieux se voir pauvre en esprit, mais que l'Esprit agisse véritablement dans l'Assemblée, que d'afficher une richesse spirituelle qui, je le crains, est souvent très artificielle. Ça m'amène à la question suivante. Quelle est l'Assemblée qui passera au travers des persécutions? J'ai parlé un petit peu la dernière fois sous un autre angle. Est-ce que c'est l'Église qui est matériellement riche, qui cherche la visibilité, qui a fait un gros emprunt pour avoir un gros bâtiment avec une belle affiche et avec des salaires à verser pour les ministères, ceci, cela? Attendez, quand la persécution vient, ce sera la première cible qui va être attaquée et fermée. Et tout l'argent qui a été mis là, il va servir à quoi? On voit que dans les temps de persécution, les églises qui passent au travers, ce sont les églises qui sont pauvres matériellement, qui se réunissent dans des maisons, dans des lieux privés. Ça ne veut pas dire que les églises de maison sont automatiquement riches spirituellement. La pire expérience que j'ai faite dans ma vie chrétienne était dans une église de maison. Donc, je sais que c'est pas la panacée. Mais au moins, ça rejoint ce que j'ai dit avant. Ça permet un partage horizontal et ça permet à l'esprit d'agir. Si on revient, voilà. Par contre, si quelqu'un prend la main sur le groupe de maison, ben, autant aller dans une église classique. Et ça reviendra au même. Donc, l'idée de l'église de maison, c'est le partage horizontal. Bon, je vais gagner un petit peu de temps en passant à certains points. Ensuite, je me suis dit, bon, il y a la question du riche et du pauvre, mais est-ce qu'il y a d'autres types de discrimination qu'on peut trouver dans l'Église? Et que Jacques, lui, donc, condamne. Parce que ça viole la loi d'amour. Alors, on a vu le riche par rapport au pauvre, mais également, par exemple, la discrimination ethnique ou nationale. Alors là, c'est bien, parce que alors, si je commence à regarder toutes les ethnies et nationalités et pays d'origine, voilà, ben ça c'est important. Ça c'est un critère qui est important. Et évidemment, la discrimination fondamentale il y a 2000 ans, c'est évidemment celle entre les Juifs et les Grecs. C'est celle-là la première. Et puis ensuite, parmi les Grecs, alors là, il y a toutes les nations. Donc dans Éphésiens 2, Paul dit que Jésus est notre paix, lui qui est des deux, les Juifs et les Grecs, a fait un seul homme. Donc il n'y a plus de discrimination entre Juifs et Grecs. Et c'est dramatique qu'aujourd'hui, il y ait nombre de chrétiens qui veulent rétablir une discrimination entre Juifs et nations. Non, les deux sont un en Jésus. Ça, c'est la nouvelle alliance. Donc il n'y a pas de destin séparé, c'est les deux en Jésus ou les deux hors de Jésus. Mais il n'y a pas de destin séparé, il n'y a qu'une seule alliance, un seul peuple, un seul Dieu, une seule, voilà, je l'ai dit, une seule alliance. Voilà. Les deux sont un. On ne peut pas les distinguer. Ils ont le même destin en Jésus ou la même rébellion en dehors de Jésus. On est dedans ou on est dehors. Et donc, comme je l'ai dit, c'est malheureux que nombre d'églises aujourd'hui veulent remettre une distinction là où Paul dit que la distinction a été abolie. Galates 3, il n'y a plus ni juif ni grec. Vous êtes un en Jésus le Messie. À nouveau, c'est quand même clair. Et dans Jean 10, il n'y aura plus qu'un seul troupeau et un seul berger. Les brebis qui sont déjà dans la bergerie, et comme le dit Jésus, et celles du dehors qui vont entrer dans la bergerie. La bergerie, c'est l'Israël de Dieu. Les Juifs qui croient en Jésus dans la bergerie, et ceux des nations qui croient en Jésus vont les rejoindre pour former un seul peuple, un seul troupeau, un seul berger. Alors, toujours pareil, il faut équilibrer les propos. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence de culture. Un culte chrétien en Chine, je pense qu'on s'est surpris. Et inversement, un Chinois qui verrait un culte chrétien en France serait surpris. Parce que forcément, il y a une part de notre culture dans la manière dont on exprime notre foi. Par contre, il y a un point qui est commun, c'est Jésus. Et c'est ça qui doit demeurer. Donc, il n'y a pas d'effacement des différences culturelles. Dans l'Apocalypse en particulier, nombre de fois, les foules, les peuples, les langues et les nations. Il y a une diversité. Et c'est ça la beauté d'ailleurs de l'œuvre de Dieu, c'est qu'il est le seul par son esprit à pouvoir gérer la diversité. Nous, on ne sait pas. Nous, il faut que tout soit standardisé, tout le monde de la même hauteur, tout le monde pense pareil, tout le monde fait pareil. Hein, ça s'appelle du légalisme, ça. Hein. Voilà, nous, on veut tout standardiser. L'autre discrimination, donc oui, à chaque fois, on abolit la discrimination, ça ne veut pas dire qu'on ne garde pas une différence, mais par l'esprit. L'autre discrimination, évidemment, c'est entre les hommes et les femmes dans l'Église. Là, c'est toujours étonnant pour moi de voir que certaines églises luttent encore avec l'idée, est-ce qu'une femme peut prier dans l'assemblée? Est-ce qu'une femme peut lire la Bible dans l'assemblée? Est-ce qu'une femme peut prophétiser dans l'assemblée? Alors, il me semble que dans la parole, c'est assez clair. La femme, de ce point de vue, est exactement l'égale de l'homme. Elle fait tout ce que l'homme fait. Hommes et femmes, il les créa. Galates 3 encore, il n'y a plus ni homme ni femme. 1 Pierre 3, elles sont co-héritières de la grâce de vie. Elles peuvent prier, prophétiser, apprendre. Et pourtant, il y a une restriction. Toujours pareil. On ne discrimine plus, mais on n'a pas les mêmes fonctions. Et dans, je l'ai déjà dit plusieurs fois, donc je le répète très brièvement, il y a une restriction dans le rôle de la femme dans l'Assemblée. Est-ce que vous vous souvenez quelle est cette restriction? Le Paul met. Voilà, mais enseigner d'une manière particulière. Parce qu'il y a nombre de femmes qui enseignent, par exemple, à l'école du dimanche, etc., etc. Autrement dit, des choses qui sont déjà bien balisées, bien standardisées, etc. La seule chose que la femme ne peut pas faire, c'est confronter le serpent, directement. En clair, quand il y a une hérésie ou une fausse doctrine qui vient, c'est à l'homme, donc les anciens, mais les hommes de manière générale à l'assemblée, c'est à l'homme de prendre la responsabilité de dire « Dieu a dit ». Et si la femme va au-devant du serpent, comme l'a fait Ève, elle se retrouve séduite, parce que ce n'est pas son rôle. Donc c'est la seule restriction qu'il y a, c'est dans la dénonciation des hérésies, la prise de position de l'Église sur tel ou tel sujet. Ça, c'est le rôle de l'homme. Et c'est parce qu'Adam a failli dans ce rôle que l'humanité a chuté. Donc c'est pas la faute d'Ève, c'est la faute d'Adam. Quand le serpent s'est présenté dans le jardin, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Ève, ce n'est pas pourquoi Ève a discuté avec le serpent, c'est savoir, mais pourquoi est-ce qu'Adam n'a pas mis le serpent dehors? C'est le rôle de l'homme. C'est la seule nuance qu'il y a au fait qu'il n'y a plus ni homme ni femme dans l'Église. Donc tout le monde peut prier, prophétiser, lire, etc. Il y a une autre discrimination qui est importante, c'est la discrimination générationnelle. C'est-à-dire les jeunes et les vieux. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Hein? L'unité entre les jeunes et les vieux. Ça, c'est important, la solidarité entre les générations. Paul va dire, par exemple, à Timothée, 1 Timothée 4, que personne ne méprise ta jeunesse. Mais attention, il y a jeunesse et jeunesse. Parce que l'âge de la jeunesse, c'est l'âge des certitudes, c'est l'âge de l'idéal, c'est l'âge des émotions, des passions, c'est aussi l'âge des hormones. Donc, c'est pas pour rien que les jeunes ont cette faiblesse d'être facilement manipulables. Regardez dans le monde, les militants, les partis politiques jouent sur cette quête d'idéal et d'absolu pour manipuler les jeunes. Donc quand Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, c'est parce que Timothée, comme il lui dit par ailleurs, il a connu les tribulations de Paul, il a vu ce que c'était d'assumer le ministère de la parole, et Timothée donc a été enseigné à très bonne école, et il a mûri à toute allure à côté de Paul, parce qu'il a vu ce que c'était que la vie chrétienne. Donc on peut être jeune et mûr. Et auquel cas, il ne faut pas mépriser cela. Inversement, on peut être âgé et immature. Mais il y a cette solidarité entre les générations. Et à nouveau, intéressant, il y a une seule restriction. Oui, toujours un équilibre. C'est Paul qui le dit, là encore à Timothée, dans la première épître au chapitre 3. L'ancien ne peut pas être un nouveau converti. Parce qu'il n'a pas l'expérience, il ne sait pas encore discerner le bien du mal, il n'a pas l'expérience de la relation avec Dieu, etc., etc. Il est dit, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Et comment tombe-t-on sous le jugement du diable? Parce que comme je l'ai dit, quand on est jeune, on est idéaliste, on a tout compris, on sait comment tout soit passé, et voilà. Et non, l'expérience permet d'arrondir les choses. Un ancien, comme on en a discuté un petit peu avec Abdel hier et ce matin, un ancien doit être rompu, capable d'absorber les différences, avec des convictions propres bien établies, mais capable de gérer les différences et non pas d'imposer sa manière de voir sur les autres. Parce que ça, c'est un ancien qu'on va vite fuir. Hein. Si à chaque fois que je m'adresse à quelqu'un, un ancien, je me reçois un coup de marteau sur la tête, à un moment donné, on va le fuir. Alors que l'ancien, il est là pour arrondir, pour surveiller, pour discerner, pour faire que tout s'écoule de la bonne manière. Oui, oui, oui. On avance. Mes frères bien-aimés, n'est-ce pas les pauvres du monde qui sont riches en la foi et que Dieu a choisi afin qu'ils soient héritiers du royaume que Dieu a promis à ceux qu'il aime? Et c'est là que vient ce passage particulier. Or, vous avez méprisé le pauvre au profit du riche, le riche qui s'élève contre vous, qui vous traîne dans les tribunaux et qui blasphème le nom de Jésus. Mais que viennent faire ces gens-là dans la synagogue? Ou on dirait, que viennent faire ces gens-là dans l'Église? Et là, ça pose la question du rapport de l'Église au monde. Donc je vais directement aller à cette question. En fait, tel que je le comprends, hein, là, Jacques est en train de dénoncer quelque chose. Là encore, souvenez-vous, nous sommes dans le contexte du judaïsme. Et la synagogue, c'est pas simplement le lieu de culte. C'est en fait le lieu de vie communautaire. Tout passait par la synagogue. Et donc, une des craintes qu'avaient les premiers juifs qui reconnaissaient en Jésus leur Messie, c'était d'être exclus de la synagogue. Mais exclus de la synagogue, ce n'est pas simplement ne plus aller au culte le samedi, le jour du sabbat. C'était carrément être exclu de la communauté. Jean 9, les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un confessait Jésus comme étant le Messie, il soit exclu de la synagogue et donc de la communauté. Jean 12, plusieurs, même parmi les chefs, crurent en Jésus, mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas de peur d'être exclus de la synagogue. Et donc on peut se demander si la communauté à laquelle Jacques s'adresse, par crainte d'être exclu de la synagogue, ne tolérait pas parmi eux, en particulier les riches, donc les gens influents, qui d'un revers de main pourraient les balancer au tribunal ou les exclure de la communauté. Est-ce qu'il n'y avait pas là une crainte de l'homme qui fait que, voilà, cette communauté, cette synagogue, tolérait parmi les juifs croyants des incroyants à cause de leur pouvoir potentiel de nuisance de par leur position d'ascendant, d'autorité, de richesse? Et donc, ça pose notre question de la relation par rapport aux autorités. Les gens influents. Voilà. Est-ce qu'on veut gagner telle ou telle personne parce qu'elle est influente et qu'on pense que ça va faire avancer l'œuvre de l'Église, par exemple, en faisant fi du fait que c'est l'Église, c'est l'Esprit de Dieu qui rajoute à l'Église qui il veut pour que la personne soit sauvée. On peut avoir un rapport aux autorités en quête de visibilité. Alors on va constamment courir après la mairie ou après tel ou tel représentant parce que, vous comprenez, il faut qu'on soit visible, il faut qu'on soit connu et reconnu. Il me semble qu'il y a quelque chose de tordu là. Cherche-t-on la protection des autorités, comme Israël, dans le temps ancien, avait cherché la protection de l'Égypte? Et Dieu avait dit à Israël qu'il cherche la protection de l'Égypte, mais tu es en train de t'appuyer sur un roseau percé. Si tu appuies dessus, ça va percer ta main. Est-ce que nous nous appuyons sur des autorités ou nous nous appuyons sur le Seigneur et l'autorité suprême? Donc voilà, on est dans un contexte là, il me semble, avec l'épître de Jacques, où la séparation n'est pas encore entière entre ceux qui croient en Jésus et ceux qui vraiment luttent contre Jésus. Il y avait encore une espèce de compromis qui se faisait, et je pense hein, que c'est ce que Jacques dénonce ici. Et là où on le voit bien, effectivement, ce dilemme, par exemple dans Acte 21, quand Paul retourne à Jérusalem, il lui dit « Ah, mais vois, il y a parmi ici beaucoup de Juifs, des myriades qui ont cru, et ils sont tous zélateurs de la loi. » Oui, mais on ne nous demande pas d'être zélateurs de la loi, que l'on soit juif ou grec. On nous demande d'être zélé pour Jésus. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, il y avait une forte tension identitaire dans les tout premiers temps de la Nouvelle Alliance. Il y avait un enjeu qui se retrouve encore aujourd'hui. Au XIXe siècle, le monde juif s'est ouvert aux nations et s'est ouvert à l'Évangile. Il y a une telle crainte de la part des Juifs de se dissoudre parmi les nations que ça a provoqué la contre-réaction qui s'appelle le sionisme. Il faut comprendre, il y a une crainte identitaire enracinée profonde de disparaître. Si on se met à croire en Jésus, on va disparaître parmi les nations. Donc il y a une crainte identitaire et qui s'exprimait déjà il y a 2000 ans. Donc rien de nouveau sous le soleil. Ensuite, il y a le passage, vous vous en souvenez, où il est dit donc que transgresser un commandement, c'est les transgresser tous. Parce que celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a également dit « tu ne tueras pas ». Alors je peux me satisfaire de ne pas commettre d'adultère, mais si je tue à côté, c'est bien la loi tout entière que j'ai violée. Donc la loi, c'est tout ou rien. Alors à partir de là, il y a deux issues, il y a deux manières de s'en sortir. La première, c'est faire la liste de tous les commandements de la loi et essayer de les accomplir les uns derrière les autres. Ça, c'est le légalisme. Ça, c'est la mentalité pharisienne. C'est du légalisme. Et il y a des églises qui fonctionnent comme ça, j'en ai connu. Je suis passé au travers, donc je sais ce que c'est. Et on commence à tout juger, la longueur des cheveux, la qualité des chaussures, la longueur des jupes, la manière dont on parle. Enfin, voilà. Et on fait une liste, et il faut cocher les cases. Et plus on cause de cases, plus on est spirituel. C'est ça le légalisme. Or là, ce qui m'a frappé dans ce passage, celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère », celui-là a dit aussi « tu ne tueras pas ». Autrement dit, l'important, ce n'est pas la liste des commandements, autrement dit, la lettre de la loi. L'important, c'est celui qui les a édictés. Et donc, comment on fait pour accomplir la loi? Ben, en étant en relation avec celui qui a écrit la loi. C'est pour ça que c'est l'amour qui accomplit la loi. L'amour pour Dieu par Jésus. Parce que si j'aime Dieu et si j'aime mon prochain, par définition, j'accomplis la loi. Je ne vais pas commettre d'adultère, je ne vais pas tuer, je ne vais pas jalouser, je ne vais pas faire des discriminations, je ne vais pas faire un délit de faciès, je ne vais pas voler, je ne vais pas... Si j'aime mon prochain parce que j'aime Dieu et que je me sais aimer de Dieu, c'est comme ça qu'on accomplit la loi. Donc, accomplir la loi se focalise sur celui qui a énoncé la loi et non pas sur la lettre de la loi. Parce que là, avec la lettre de la loi, on s'en sort pas. Hein, les 613 commandements ou 616, je sais plus combien il y en a. S'il faut cocher toutes les cases, et puis dès qu'on les a toutes cochées, paf, ça y est, j'ai à nouveau transgressé un, faut tout recommencer. Puisque en transgresser un, c'est les transgresser tous. Puisque c'est contre Dieu que l'on va. Donc ça, c'est important. Mais l'amour du prochain dans l'Église, là encore, ne veut pas dire n'importe quoi. On le dit souvent, il n'y a pas de vérité sans amour et pas d'amour sans vérité. C'est ce que va dire Paul, par exemple, dans 1 Corinthiens 5. « Qu'ai-je à faire de juger ceux qui sont dehors ? Ne jugez pas, ne jugez-vous pas, vous, ceux qui sont du dedans ? Ceux du dehors, c'est Dieu qui les juge, mais ôtez le méchant du milieu de vous. » Donc, voilà, l'amour, c'est pas béni, oui. C'est également lorsqu'il y a une transgression manifeste, un péché manifeste qui contamine l'Église, il y a ce qui s'appelle la discipline d'Église. Donc c'est l'équilibre, là encore, entre l'amour qui accomplit la loi et qui va également discipliner, si cet amour est perturbé dans l'Assemblée, par des comportements inappropriés. Et c'est intéressant de faire appel à celui qui a édicté la loi, parce que c'est ce que Jésus fait également. Hein. On vous a dit de haïr votre ennemi, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Jésus renvoie à ce que lui dit, renvoie à sa personne. La loi vous a dit, les anciens ont dit, votre tradition dit, mais moi, je vous dis. C'est comme ça qu'on a compris la loi, la relation avec celui qui dit. Voilà, donc comme je l'ai marqué dans mes notes, donc c'est tout le rapport en fait au légalisme qui est dénoncé ici, à vouloir faire la liste de tous les commandements de Dieu. Dans Matthieu 5, moi je vous dis. La loi, elle est une parce que Dieu est un. On ne peut pas découper la loi en morceaux de la même manière qu'on ne peut pas couper Dieu en morceaux. Et on ne peut pas couper Jésus en morceaux non plus. Comme je l'ai souvent dit, on ne peut pas dire « Jésus a été fait pour moi justice et sainteté, donc je garde la justice et on verra plus tard pour la sainteté. » On ne peut pas le couper en deux. Et la conclusion de tout cela, c'est Jacques qui la donne. « Agissez comme des hommes qui seront jugés par la loi de la liberté. » Et la loi n'a pas de compassion. Sous-entendu, la lettre de la loi n'a pas de compassion. Celui qui transgresse la loi meurt par la loi. C'est dur la loi. La loi, l'alliance mosaïque n'avait pas de compassion. Et le seul moyen d'échapper à la mort, c'était d'offrir un animal. Donc de tuer un animal lorsqu'on avait péché. C'était ça la loi. La loi, c'est la condamnation. Et le seul moyen d'y échapper, c'était de sacrifier un animal. Voilà, donc c'est ce qui résume l'ensemble du propos de Jacques. Sortir du calcul de notre obéissance en, comment on dit ça avec Dieu, on fait du marchandage avec Dieu, avec tel commandement, oui, mais celui-là, on verra plus tard, etc. Et privilégier la recherche de la communion avec le Seigneur. J'en reviens toujours à ça. On en a parlé encore un petit peu tout à l'heure. La source de notre piété, la source de la vie chrétienne, c'est la communion intime avec le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qu'on affiche forcément à l'extérieur, mais qu'on cultive à l'intérieur, et la source, elle est là. La source de l'accomplissement de la loi, elle est là. La source de... la manière de dépasser toutes les formes de discrimination dont on a parlé avant, elle est là. Elle est dans la piété personnelle, elle est dans la communion. Vous remarquerez que dans la liste des discriminations dont j'ai parlé, riches par rapport aux pauvres, les jeunes par rapport aux vieux, également les ethnies, les unes par rapport aux autres, etc., il en est d'autres discriminations dont je n'ai pas parlé, mais que les médias et le monde veulent absolument mettre en avant. Mais celles-là n'ont pas à être mises en avant. Donc je ne vais pas en faire la liste, mais je pense que vous voyez à quoi je fais allusion. Donc aujourd'hui dans le monde, il est prompt à dénoncer toute forme de discrimination. Mais ce ne sont pas les discriminations telles que celles que la parole dénonce. Donc faisons attention à ça aussi, ne pas faire entrer l'esprit du monde dans l'Église pour dénoncer des choses qui n'ont pas à être dénoncées. Voilà, donc en conclusion, c'est la lettre qui tue, c'est l'esprit qui vivifie, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté, c'est là qu'est la loi de liberté. C'est ce que nous dit Paul dans 2 Corinthiens 3, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, voilà, faisons attention à notre regard, mais faisons encore plus attention à nos pensées mauvaises qui jugent les personnes par l'apparence, qui jugent la personne par toutes sortes de choses, et on ne se rend pas compte par là que l'on transgresse la loi de Dieu. Donc faisons attention à ça. Je pense que c'est le message de Jacques ce matin, et dans un contexte à nouveau où on était en plein flottement dans le monde juif, entre croire en Jésus ou ne pas croire, et quel était le prix à payer pour la confession publique de Jésus.